por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica.
En nombre de la igualdad y todo lo demás.
Los indígenas viviremos eternamente.
La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada.
Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM.
Pour certains, passer une nuit en Amérique latine peut être une chose assez simple. Il suffit de régler son poste sur 106.6, vous savez, 106.6, ou alors d'ouvrir son appli de podcast préféré pour nous écouter. Pour d'autres, la nuit en Amérique latine peut être le fruit d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres et surtout de plusieurs siècles. Ce soir, nous vous emmenons aux confins du monde. Nous vous baladons de l'Inde médiévale au contrefort des Andes d'Argentine, de l'Empire byzantin au Brésil, de métissage en métissage. Car de métissage au fond, dans Una Noche en Latinoamérica, il en est toujours question. Tzigane d'Amérique du Sud, une odyssée. Cette émission est le fruit d'une question que je me suis posée il y a quelque temps. Mais au fait, y a-t-il des tziganes en Amérique du Sud ? Dans un premier temps, il convient de savoir ce qu'il y a derrière ce mot, tzigane, ou derrière le mot rom ou gitan, car trop souvent les limites entre ces termes sont floues. Pour me faire une idée précise, il m'a fallu me pencher sur l'histoire de ces populations. Pour situer la période et l'endroit où naît l'histoire tzigane, j'ai fait appel à Elisabeth Clanet, auteure et chercheuse, qui a largement étudié le sujet. Elle, ainsi que d'autres chercheurs, fondent leur approche depuis quelques dizaines d'années sur l'analyse de la langue des tziganes, le romani, ainsi que sur des bases anthropologiques et historiques. Alors avant de prendre la route de l'Amérique du Sud, remontons celle des tziganes. Au XIe siècle de notre ère, les armées turques, ces armées de l'Empire des Steppes, conquièrent des régions du nord de l'Inde, dans la moyenne vallée du Gange. Ces armées ont vraisemblablement déporté massivement des populations de ces régions dans leur objectif d'invasion de l'Asie mineure. Ces peuplades villageoises et citadines venaient apporter leur concours logistique en 1071 lors de la conquête par les Turcs de l'Anatolie, autrement dit une très grande partie de la Turquie actuelle. C'est là que l'on trouve la naissance de deux termes bien connus, et c'est aussi là que je vous laisse quelques instants avec Elisabeth Clanet.
C'est en Inde, les armées indiennes appelées des castes qui étaient à leur service, que vous aviez des gens qui étaient par exemple forgerons, mais vous aviez des dresseurs d'animaux de combat. Et pour dresser des animaux de combat, vous avez besoin de vétérinaires, vous avez besoin de toutes sortes de métiers, hein. Des gens qui ramassent le foin, qui leur apportent, enfin bon. Et puis vous avez besoin de musiciens, puisque vous ne pouvez pas dresser un animal de combat si vous n'avez pas des gens qui font du bruit. Alors cet entraînement des chevaux de combat s'appelait chaugan en persan. Le mot de tzigane, c'est ce qu'on emploie en turc, tzigane, tzingene. Maintenant, on va arriver au terme de Rome. En fait, ces armées turques vont coloniser une partie de l'Empire byzantin qui se trouve aujourd'hui en Turquie, qu'on appelait l'Empire romain d'Orient et qu'on appelait la Romania. Et tous les habitants de cette Romania, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient, on les appelait Roma. Romaiote, Romaoi. Et donc, les Turcs sont installés dans cette région, et qu'on a appelé cette Romanie byzantine, qui est devenue le sultanat de Rome. Et donc, les gens qui vivaient là avaient ce nom de Rome, Roma. Donc, le terme Rome, en Romanie, en langue romanie, il a deux acceptions. Une, c'est « je suis Rome » et de peuple, on va dire « Rome », ou bien ça veut dire « mon mari ». Muro Rome, mon mari, Muri Romni, ma femme.
Nous voilà donc en Asie mineure il y a quelques 800 ans. Peu à peu, ces peuples d'origine indienne, dont la langue romani s'est enrichie au contact du perse et de l'arménien, vont progressivement se disperser en Europe. Beaucoup vont se retrouver en Roumanie où il subsiste encore une très large communauté rome. D'autres vont voyager à travers les Balkans et plus au nord, par exemple, dans le royaume de Bohême, pour y trouver un nom bohémien qui aujourd'hui subsiste encore. De la même façon, des groupes identifiés comme venant de Petite-Égypte, une zone correspondant aujourd'hui à l'Albanie, sont appelés Égyptiens, Gitans, Gypsies, Gitanos, et sont aujourd'hui connus pour être présents dans toute la péninsule ibérique. D'autres encore s'installent en Grèce, avant de se retrouver une nouvelle fois déportés.
à la fin du 15e siècle, il y a une autre vague qui va arriver de la Grèce, des réfugiés, parce que il y a des avancées, des invasions ottomanes, et ces gens, des tas de Grecs, vont fuir vers le sud de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, et parmi ces Greci, vous avez des gens qui, en fait, on va dire maintenant, sont des Roms, si vous voulez, mais bon, on les dénomine pas comme ça. On appelle tous ces réfugiés des Grecs, donc des réfugiés chrétiens qui fuient les Ottomans. Ces fameux Grecs, ils vont se retrouver dans le sud de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, qui en réalité sont sous domination du roi d'Aragon, la Catalogne hein, d'aujourd'hui, si vous voulez. Et puis le roi d'Aragon et la reine de Castille vont se marier, ça va faire un grand royaume, et donc le royaume d'Espagne inclut le sud de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, et ils vont faire venir ces réfugiés grecs dans le sud de l'Espagne, où on a expulsé, on est à la période où on expulse les Juifs et les Morisques, on a expulsé une grande partie de la population, et donc on est intéressé à faire venir des réfugiés chrétiens, donc grecs. Et ces grecs vont, vers la deuxième moitié du XVIe siècle, beaucoup vont partir, se retrouver au Portugal, et vont être ensuite, pour certains, envoyés au Brésil, où on va les appeler gringos. Période tout à fait incroyable de l'histoire d'Europe, en tous les cas. 1494, c'est le traité de Tordesillas, la partition, je dirais, du monde entre l'Espagne et le Portugal faite par le pape. Donc une partie du Brésil, la partie orientale, enfin celle qui est la côte orientale du Brésil, va être donnée au Portugal et le reste à l'Espagne. En 1498, on découvre l'Inde et en 1500, officiellement le Brésil. En 1526, il y a une sorte de décret qui dit qu'on veut qu'aucun cigane, c'est le roi qui dit qu'il ne vienne dans son royaume. Mais en 1938, il y a une loi qui dit qu'on ne veut toujours pas qu'il y en ait des ciganes, ce qui viennent apparemment d'Espagne, hein, sans doute. Mais s'il y en a qui sont nés dans mes royaumes, on ne va pas les expulser, on les enverra en degredo. Alors degredar, c'est un mot courant dans l'histoire du Portugal, c'est le même mot que décret. Souvent, on faisait le degredo vers les galères, hein, pour des gens qui étaient réputés délinquants éventuellement, ou des gens dont on savait trop que faire. Donc on est dans cette période où le Portugal, qui vient de faire d'énormes voyages et de vouloir conquérir des terres, a besoin de coloniser, parce qu'il n'a pas assez de population. Le Portugal est un petit pays très peu peuplé. Il faut absolument qu'il peuple ses colonies. Donc, vous voyez qu'au départ, il y a parmi les degredados, toutes sortes de gens qui sont degredados, un certain nombre de gens qu'on appelle ou gregos ou ciganos. En fait, jusqu'à cette époque-là, donc vous avez des jésuites, des degredados, quelques orphelines au Brésil. Et en 1585, ce sont les premiers colons qui arrivent au Brésil. On le retrouve dans les archives du Saint-Office, hein, de l'Inquisition, un certain nombre de traces de populations ciganes qui sont soit venues de leur propre gré, soit degredadas. Alors tout ça se passe au moment de la traite négrière. Aussi, donc le Brésil va commencer à développer une économie de sucrière industrielle et on va avoir besoin de main-d'œuvre. Donc on va chercher des esclaves en Afrique. Et là, les ciganos vont eux aussi faire partie de cette économie sucrière. C'est-à-dire que beaucoup qui sont des gens qui réparent des objets en métal vont dans les moulins, ce qu'on appelle les moulins à sucre, où il y a ben, des chaudrons, il y a des instruments pour couper la canne, etc. On a besoin de gens qui savent travailler le métal. Donc, ils vont d'un moulin à sucre à l'autre pour prêter leur service. Et également, ils sont marchands de chevaux, ils réparent des chaudrons, ils montrent montreurs de singes et ils sont petits marchands d'esclaves.
Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, pour Radio Campus 106.6.
Comme j'ai laissé la parole à Elisabeth Clanet pour dérouler le fil de l'histoire tzigane du nord de l'Inde jusqu'au Brésil, je vais à présent la laisser à Jorge Bernal. Il préside en Argentine une association qui promeut la culture et l'identité rome, dans son pays comme dans le continent tout entier.
Hola, me presento, mi nombre es Jorge Bernal. Soy un rom de Argentina.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Jorge Bernal, je suis rom d'Argentine. Je suis d'origine russe, mais ma famille est passée par l'Espagne avant de venir en Amérique. De nombreux Roms vivent sur le continent américain. Ils sont passés par l'Espagne ou d'autres pays européens, puis ont embarqué vers le continent américain. Nous vivons dans la plupart des pays d'Amérique. Nous sommes arrivés en Argentine entre 1880 et 1928. Bien qu'après il y a eu d'autres vagues migratoires, comme dans les années 60 principalement, des gitans d'origine espagnole.
En los años 90 vinieron algunos gitanos de Rumania, pero bueno,
Dans les années 90, certains gitans sont venus de Roumanie, mais ils sont repartis en Europe à partir de l'année 2000.
Los primeros fueron gitanos españoles del sur de España.
Parmi les groupes arrivés en Argentine, les premiers étaient les gitans du sud de l'Espagne, ainsi que les gitans d'origine serbe et grecque, tous de la communauté Calderas.
Llegaron otros grupos como gitanos a los que nosotros llamamos
boyas. Et puis d'autres groupes de gitans sont arrivés, comme ceux que nous appelons boyash, qui sont d'origine roumaine, qui ont appris la langue en Roumanie et parlent la langue roumaine comme langue principale. Les gitans espagnols, eux, ont également appris à parler espagnol et l'utilisent comme leur propre langue. Nous, les groupes romani venus de Moldavie, de Russie, de Serbie et de Grèce, jusqu'ici en Argentine, nous utilisons la langue romani ou la langue tzigane. On utilise en fait le mot « rom », qui est quelque chose de commun à tous les gitans qui sont du groupe Calderas. Il y a un groupe affilié qui sont les Lovari, qui s'apparentent aux Roms. Il y a aussi des Lovari qui sont venus en Argentine. Voilà un peu l'histoire de la migration vers ce continent.
Esa fue la migración a este continente.
Du 16e siècle jusqu'au début du 19e siècle, ce sont des gens qui sont arrivés du Portugal, un peu d'Espagne, puisqu'ils venaient d'Espagne vers le Portugal, et du Portugal. Mais à la fin du 19e siècle, vous avez donc l'abolition de l'esclavage, et donc le Brésil va essayer de faire venir des immigrés européens. Beaucoup de gens vont quitter, surtout à la fin de la Première Guerre mondiale, la Serbie et puis des territoires qui étaient ottomans. Et donc c'est là où vont arriver ces Roms Calderas, donc des Machuaya. Alors les Machuaya, ce sont des gens qui viennent de la région de Machua en Serbie, des Jorajane. Les Jorajane, c'est la même origine que Khorasan. Khorasan, c'est le nord de l'Iran. En fait, ça veut dire des musulmans, des Roms musulmans. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de Roms musulmans en Bosnie, en Macédoine du Nord, hein, dans tous ces pays. Et donc, beaucoup de gens vont arriver avec des immigrés allemands, d'Europe centrale, beaucoup avec des Hongrois, etc., vont arriver au Brésil. Et donc, c'est ce qu'on va plutôt des Roms, hein, disons là, c'est pas les gitans de la péninsule ibérique, mais des Roms, et aussi quelques Sintés allemands, mais de façon plus discrète.
La llegada al continente americano, la mayoría de las familias.
À leur arrivée sur le continent américain, la plupart des familles vivaient une vie nomade et effectuaient des métiers tels que la réparation d'outils, des travaux agricoles, l'achat ou vente d'animaux. Ensuite, elles ont accédé aux grandes villes à partir des années 20 ou 30, selon les groupes. Et l'automobile, par exemple, y a été adoptée. Certaines familles ont créé des entreprises pour acheter et vendre des voitures, acheter et vendre de la ferraille, réparer des machines hydrauliques. La vie a commencé à changer à partir de ce moment-là.
Respecto al tema de la forma de vida y todo,
En ce qui concerne la question du mode de vie, depuis que nous sommes arrivés en Argentine et dans les autres pays d'Amérique latine, il faut savoir que tous les groupes sont restés unis. Nous sommes restés en contact avec ceux qui vivent en France ou en Espagne, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que les liens n'ont jamais été rompus malgré l'émigration. Cela arrive dans tous les groupes, il y a toujours eu des contacts très étroits. Ici, sur le continent américain, nous avons malheureusement opté pour une invisibilité de notre peuple ces derniers temps, pour éviter tout type ou acte de discrimination qui ont commencé à davantage apparaître depuis une vingtaine d'années. Pour éviter les problèmes, la plupart des familles et des groupes ont opté pour l'invisibilité, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a 20 ans, il était très courant de voir des gitans partout. Même la question de la discrimination a amené de nombreuses femmes à porter des vêtements qui ne sont pas d'anciens vêtements traditionnels, pour s'adapter à la mode et ne pas être discriminées. Les jupes sont restées longues, mais les couleurs ont été changées. Nos habitudes ont changé, car malheureusement, la discrimination existe aussi sur ce continent.
Dans le Brésil d'aujourd'hui, on a des ciganges un peu partout qui font des métiers variés, soit s'occuper de vigiles, par exemple, dans des grands domaines, de vigiles avec leurs armes et leurs chevaux pour protéger, par exemple, une exploitation. Il y en a qui font du commerce, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont médecins, il y en a qui font le commerce de l'or, d'autres de voitures, d'autres qui sont mécaniciens. Vous avez toutes sortes de métiers. Il y en a qui sont très visibles, d'autres pas du tout visibles. Et bien sûr, on va faire plutôt s'intéresser, les ethnologues, les anthropologues, etc., à ceux qui sont qui correspondent à l'image qu'on se fait du tzigane. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit visible, qu'il ait des métiers très traditionnels. Et donc, on va surtout s'intéresser à ceux-là qui, petit à petit, par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune, ne vont plus s'habiller comme tout le monde, comme on s'habille au Brésil, mais vont commencer à se déguiser en ciganos. C'est-à-dire, il faut que ça ressemble un peu à des trucs colorés, à volants. Voilà, on va s'habiller de façon qui ressemble pas du tout à ce qu'au Portugal, parce que les ciganos au Portugal sont habillés de façon très, très, dans des couleurs sombres, hein, du bleu marine, du marron, du noir. Alors là, c'est plutôt, il faut avoir des couleurs vives, des tas de volants, etc. On s'habille un peu comme les paysannes brésiliennes pour les fêtes de la Saint-Jean, enfin pour... mais parce que ça, c'est plus, disons, vendeur pour intéresser les ethnologues.
Con respecto a l'association que yo presido, qui se llama AICRA.
Concernant l'association que je préside, qui s'appelle AICRA, notre travail a commencé par rendre visible notre communauté dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, et aussi tout montrer de notre culture, de nos traditions. Nous avions une émission de radio, nous avons fait des émissions de télévision montrant notre culture et nos familles. Principalement du groupe
Calderache.
Mais grâce à nos contacts avec d'autres groupes qui vivent en Argentine, comme les Boyaches ou les Espagnols, nous sommes désormais plus nombreux pour travailler ensemble.
Que también ahora estamos mucho más trabajando juntos.
Mais lorsque l'association s'est créée, nous étions avant tout focalisés sur notre groupe. L'association s'est formée en 2000 et nous avons immédiatement commencé à travailler avec d'autres structures sur le continent, du Canada jusqu'en Argentine. Nous avons créé une fédération d'associations appelée SCOCRA qui nous aide pour le travail que nous réalisons dans ce pays. Nous travaillons également à la défense de nos droits et lorsqu'il y a un problème de discrimination ou d'abus ou tout autre type de problème qui se pose, il n'y en a pas beaucoup mais ça arrive, on peut compter sur le soutien des autres associations du continent.
Que bueno, podemos decir que no son tantísimos, pero sí suceden. También trabajamos con el apoyo de otras asociaciones del continente americano. Nuestra asociación, como decía, se llama AICRA, Asociación Identidad Cultural.
Notre association s'appelle donc AICRA, Association culturelle de l'identité romani en Argentine. Et nous appartenons à la fédération SCOCRA qui, en espagnol, est le Conseil des associations et des peuples roms du continent américain. SCOCRA, en réalité, est un terme de notre propre langue, la langue romani.
Alors voilà, il semblerait que j'ai ma réponse. Il y a des tziganes en Amérique du Sud. Il y en a même de très larges communautés, de très larges groupes. Nous avons abordé la question en élargissant la focale sur le Brésil et l'Argentine. Mais des tziganes, des Roms, des Gitans, il y en a également au Chili, au Pérou, en Colombie, et dans bien d'autres régions encore d'Amérique latine. Alors, merci à Jorge Bernal et à Elisabeth Clanet d'avoir éclairé ma lanterne. De m'avoir fait voyager, de nous avoir fait voyager sous les radars et par les routes sinueuses des tziganes d'Amérique du Sud.
Je vais finir par un poème qui est écrit par une poétesse brésilienne qui est d'origine Calon. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. Na minha há uma delícia obscura em não querer e não ganhar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer e voltar. A minha não quer ir nem vir. A minha raça quer passar.
Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.